France Culture.
Bonjour à tous, bonjour à toutes. Bienvenue sur Les Nouveaux Chemins.
Le romancier est une fenêtre particulière dans l'absolu et n'a de valeur que dans la mesure où il en est une. L'art n'est en réalité qu'un point de vue et le génie seulement une façon de regarder les choses.
Vous accompagne tous les jours à 10h en direct et toutes les nuits en téléchargement. Chaque semaine, nous explorons un thème à la croisée des disciplines, philosophie, littérature, cinéma et musique. Et chaque jour à 10h50, vous retrouvez les 2 minutes papillons de Géraldine Mosna-Savoy pour une plongée dans l'actualité éditoriale philosophique. Quelle est la différence entre un concept et un personnage ? Entre philosophie et littérature. Très vite, la question ennuie, et toute tentative de réponse ne sera qu'un exercice méthodique qui, au mieux, sera une preuve de la virtuosité d'esprit de celui qui s'y attelle. Car au fond, quelle importance ? Qu'est-ce que ça change vraiment de savoir où commence et où s'arrête la création artistique et la réflexion philosophique ? Deleuze en prend acte dans tous ses livres, et notamment lorsqu'il parle de l'écrivain américain Henry James, auteur de La Bête dans la jungle et de Portraits de femmes, entre autres bien sûr, Henry James, qui est selon Deleuze, l'écrivain du secret par excellence. Bonjour David Lapoujade.
Bonjour.
C'est vous qui venez nous parler de Deleuze et de James aujourd'hui. Écoutons Gilles Deleuze par la voix du comédien Vincent Schmitt, un extrait de Mille Plateaux, le livre de Deleuze, sur Henry James.
Si un écrivain eut affaire avec le secret, ce fut Henry James. Il a toute une évolution à cet égard qui est comme la perfection de son art. Car le secret, il le cherche d'abord dans des contenus, même insignifiants, entr'ouverts, entr'aperçus. Puis il évoque la possibilité d'une forme infinie du secret, qui n'aurait même plus besoin de contenu et qui aurait conquis l'imperceptible. Mais il n'évoque cette possibilité que pour poser la question « Le secret est-il dans le contenu ?» ou bien dans la forme. Et la réponse est déjà donnée, ni l'un ni l'autre. C'est que James fait partie de ces écrivains pris dans un devenir femme irrésistible. Il ne cessera de poursuivre son but et d'inventer les moyens techniques nécessaires. Moléculariser le contenu du secret, linéariser la forme. James aura tout exploré, du devenir enfant du secret, toujours un enfant qui découvre des secrets, au devenir femme du secret, un secret par transparence et qui n'est plus qu'une ligne pure laissant à peine la trace de son passage. Ce qui compte dans le secret, ce sont moins ces trois états, contenu d'enfant, forme infinie virile, pure ligne féminine, que les devenirs qui y sont attachés, le devenir enfant du secret, son devenir féminin, son devenir moléculaire, là où précisément le secret n'a plus ni contenu ni forme, l'imperceptible enfin perçu, le clandestin qui n'a même plus rien à cacher.
David Lapoujade, vous êtes maître de conférences à Paris 1 Panthéon-Sorbonne, auteur de Deleuze, Les mouvements aberrants, dont vous étiez venu parler à ce même micro aux éditions de minuit. Également, Fiction du pragmatisme, William et Henry James, un essai qui porte sur les deux frères, donc les deux frères James, toujours aux éditions de minuit. Et c'est donc de Henry James qu'il sera question aujourd'hui dans le cadre de cette semaine sur Deleuze et la littérature. Disons-le tout de suite, Deleuze a peu écrit directement sur Henry James. Le texte qu'on vient d'entendre est un des rares endroits où il en parle vraiment. Mais il fait de cet auteur quelque chose de symptomatique quant au rapport justement entre la littérature et le secret. Alors en quoi James est-il pour Deleuze l'écrivain du secret par excellence ?
Je pense, bon, l'extrait qu'on vient d'entendre est remarquable de ce point de vue. Je pense que On peut repérer effectivement chez James, chez Henry James, l'évolution dont parle Deleuze, même si c'est peut-être pas une évolution. C'est-à-dire, le secret revêt plusieurs formes. La première d'entre elles, ce serait effectivement celle d'un contenu. C'est-à-dire un peu comme on échange une information dans l'oreille de quelqu'un. Donc on chuchote un secret à l'oreille de quelqu'un. On dit même que le secret, c'est une chose qu'on dit qu'à une personne à la fois. Et Deleuze insiste sur ce point en disant que le secret et sa perception sont aussi secrets l'un que l'autre. C'est-à-dire que la perception du secret, la propagation du secret, sont aussi secrètes que le secret lui-même. Donc il y a déjà une première forme du secret qui est la propagation secrète d'un contenu.
C'est paradoxal de parler du secret alors qu'on est en train d'entendre une alarme incendie à Radio France. Je le dis pour les auditeurs qui entendent cette espèce de sirène derrière vous, alors que c'est pas très propice au secret. Mais bon,
c'est grave, oui, c'est plutôt l'ordre de la divulgation. Oui.
Allez-y, je vous en prie.
Ça serait une première forme du secret, c'est-à-dire elle est inséparable de quelque chose à trouver, ou à cacher, bien évidemment. Et puis, il y a une deuxième forme du secret, celle dont parle Deleuze lorsqu'il évoque la forme infinie du secret qui serait une forme virile. Là, on est plus proche d'une sorte de version paranoïaque du secret, c'est-à-dire lorsqu'on suppose qu'il y a des secrets partout et que le secret se cache, se dissimule dans tous les recoins et qu'on n'en viendra jamais à bout. Et il y a un récit qui illustre particulièrement ça chez Henry James, c'est La Source Sacrée, qui est un récit extrêmement complexe, conduit à la première personne, d'un homme qui est persuadé que, à une réception mondaine où il se trouve, en rencontrant un homme tout d'un coup assez intelligent, il est persuadé que cet homme n'est devenu intelligent que parce qu'il aurait en quelque sorte vampirisé la source sacrée d'une femme qui par contre-coup, elle, serait devenue exsangue, vidée de toute sa force spirituelle. Et donc, cette hypothèse lui fait mener une sorte d'enquête en supposant qu'il y a un couple clandestin dans cette réception mondaine. Et il le cherche partout. Et évidemment, moins le couple sera visible, ou moins le couple se présentera comme couple, plus il a de chances d'exister. Donc, puisqu'il ne faut pas se fier aux apparences, c'est son hypothèse de départ, s'il ne faut pas se fier aux apparences, c'est que le secret doit se cacher quelque part. Quand bien même il n'y aurait rien. Et ce personnage, qui est presque un autoportrait de James, va multiplier les hypothèses, recueillir les plus subreptices indices pour essayer de corroborer sa version un petit peu vampiriste du couple, alors même que il est manifeste qu'il n'y a rien. Donc il sécrète lui-même la possibilité d'un secret qui serait dissimulé et qui prendrait une forme infinie, parce que est inépuisable l'analyse des apparences pour essayer de révéler autre chose qu'elles ne sont. C'est presque de l'ordre de la théorie du complot.
Exactement, c'est ce que j'allais vous dire. Là, on n'est plus tellement dans le secret, c'est plus de la paranoïa.
C'est de la paranoïa, oui, avec la supposition qu'il existe une forme infinie du secret, inépuisable, et qu'il faut tenter de le déchiffrer en permanence. C'est pourquoi Deleuze parle d'une sorte de forme virile, c'est-à-dire l'idée qu'on ploie sous un secret dont il faudrait que les hommes ploient sous un secret qu'ils veulent, dont ils voudraient qu'on sente qu'ils le portent, mais qu'ils ne veulent pas révéler, parce qu'il est trop lourd. Et
Ça, c'est difficile à comprendre, pour le coup, le fait qu'il qualifie de viril ce secret, cette forme infinie du secret. Il parle dans le texte qu'on a entendu beaucoup du devenir femme irrésistible, la pure ligne féminine, son devenir féminin. Qu'est-ce qu'il y a de si féminin dans le secret chez James ?
Ce à quoi il me semble, pense Deleuze, il pense surtout à certains personnages de jeunes filles innocentes a priori, dit Deleuze. C'est-à-dire, c'est la troisième forme du secret, cette fois, c'est plus cette forme infinie qui déborde tout contenu. C'est l'idée que on atteint un tel, c'est le paradoxe, une forme de paradoxe qu'on rencontre souvent chez Deleuze, l'idée qu'on atteint une telle forme de transparence, que cette transparence même devient un secret. Un peu comme on dit d'un auteur, ou comme on dirait, je sais pas moi, d'un grand styliste en sport ou dans le domaine de, je sais pas, de la danse. Mais quel est son secret? Quel est son secret pour être aussi simple, pour être aussi limpide, pour être aussi transparent? Et le secret devient une forme de, presque un style, si vous voulez. C'est-à-dire, mais comment fait-il? Comment fait-il? Quel est son secret? Alors que précisément, il n'y a pas de secret. Le secret, c'est que c'est d'une évidence qui est au-delà de tout déchiffrement, au-delà de toute interprétation. C'est ce que Deleuze appelle la ligne pure ou la ligne abstraite. Et qui est l'attribut essentiel des jeunes femmes chez Henry James, parce qu'elles ont une limpidité et une franchise qui désarçonnent tous les hommes qui les entourent, parce qu'ils ne comprennent pas cette sorte de liberté de parole et de ton propre aux jeunes filles américaines. Alors je pense ici, évidemment, la plus connue d'entre elles, c'est Daisy Miller, qui était un des plus grands succès de Henry James, au point que d'ailleurs, pendant une certaine période, on disait de certaines jeunes filles un peu effrontées, de jeunes héritières américaines, celle-là, c'est une Daisy Miller.
C'est devenu un prototype voilà. de la femme américaine. Alors, on va entendre un extrait d'une nouvelle de Henry James qui porte directement sur le secret, puisque le secret, vous en avez évoqué les trois dimensions, porte sur la façon de créer, de produire une œuvre d'art, notamment chez James, mais aussi un thème à part entière dans ses romans. Ici, dans cette nouvelle, c'est le motif dans le tapis. Un artiste, un créateur, un écrivain prétend détenir un secret de sa propre création et qui serait présent dans son œuvre et que les critiques littéraires n'arriveraient pas à déceler. Écoutez-le, c'est dans une adaptation radiophonique diffusée sur France Culture en 1966.
Il y a dans mon œuvre une idée sans laquelle je ne me serais jamais soucié le moins du monde du métier d'écrivain. Une intention précieuse entre toutes. La mettre en œuvre a été, enfin me semble-t-il, un miracle d'habileté et de persévérance. La façon dont je l'ai traité est la seule chose au monde qui me permette de penser un peu de bien de moi.
Mais visiblement, vous séparer de votre secret vous ferait de la peine.
Mon secret est maintenant pour moi ce qu'il y a de plus amusant au monde. Je vis presque uniquement pour voir s'il sera jamais découvert. Mais je n'ai pas besoin de m'inquiéter. Il ne le saura pas.
Vous m'enflammez d'un zèle sans précédent. Vous me faites prendre la résolution de vaincre ou mourir. S'agit-il d'une sorte de message ésotérique?
Mon cher ami, cela ne peut s'exprimer dans le style de pacotille des journalistes.
Je ne me servirai pas de cette expression alors dans l'article où j'annoncerai un jour ma découverte. Et pourtant, je dois avouer que j'aurais bien du mal à m'en passer. Mais en attendant, et afin seulement d'accélérer un enfantement difficile, est-ce que vous ne pourriez pas donner à un pauvre diable un semblant d'indication?
Tout l'ensemble de mes efforts lucides n'est pas autre chose. Chacune de mes pages et de mes lignes, chacun de mes mots, ce qu'il y a à trouver est aussi concret que l'oiseau dans la cage, que l'appât de l'hameçon, que le bout de fromage dans la souricière. C'est ce qui compose chaque ligne, choisit chaque mot, met un point sur tous les i, trace toutes les virgules.
Est-ce quelque chose dans le style, ou dans la pensée, un élément de la forme ou du fond?
Enfin voyons, vous avez un cœur dans votre corps. Est-ce un élément de forme ou de sentiment? Ce que personne n'a décelé dans mon œuvre, c'est un organe de vie.
Les grands personnages de la littérature, alors posons une question très simple, les grands personnages de la littérature, ben c'est des grands penseurs. Hein. Je sors de relire beaucoup de Melville. Ça va de soi que le capitaine Ahab est un grand penseur, ça va de soi que Bartleby est un penseur. Un penseur d'une autre manière, c'est pas le même genre de penseur, mais c'est un penseur. En tout cas, ils nous font penser, si bien qu'une œuvre littéraire trace autant de concepts en pointillés que de percepts, oui, ça, complètement. Simplement, c'est pas la tâche du littérateur, parce qu'il peut pas tout faire à la fois. Il est pris dans ce problème des percepts, des faire voir, faire percevoir. Et créer des personnages, tu te rends compte ce que c'est créer un personnage. C'est une chose effarante, c'est... Et le philosophe, il crée des concepts, bon, mais il se trouve que ça communique beaucoup, parce que le concept, par certains aspects, est un personnage. Et le personnage a la dimension d'un concept, quoi.
Alors là, on voit exactement les liens entre la méthode deleuzienne et l'écriture chez James, David Lapoujade, puisque dans l'extrait qu'on a entendu, l'écrivain lui-même dit bien qu'il y a un secret qu'il ne veut pas révéler, et c'est là tout le secret de sa création. Et Deleuze, dans l'extrait de l'abécédaire, hein, avec Claire Parnet, que l'on vient d'entendre, fait le rapprochement entre un concept et un personnage, en montrant que un personnage, c'est celui qui va montrer comment, qui va essayer de faire voir ce qui est. Or, chez James, tous les personnages, justement, sont des tentatives de faire voir qui n'arrive jamais finalement à un résultat, parce que le secret est absolument impénétrable.
Alors je vais revenir un instant sur le motif dans le tapis dont a été extrait le texte lu par les comédiens, parce que c'est une nouvelle qui a cristallisé beaucoup de lectures et dans laquelle on a vu, si j'ose dire, le secret de l'œuvre de James. Lui-même, c'est-à-dire comme si James se mettait en scène comme étant un auteur qui aurait un secret à l'intérieur de son œuvre et qui resterait indéchiffrable pour les commentateurs. Au point qu'on est même allé jusqu'à penser, et la plupart des lectures qui ont été faites de Henry James développaient ce point, on est allé jusqu'à penser que, dans le fond, le véritable secret de cet écrivain, dans la nouvelle en question, c'était qu'il n'y avait pas de secret et que simplement le secret devait être le moteur de l'écriture. Donc c'est une sorte de vide ou d'absence de contenu qui génère les récits chez Henry James. Du coup, nous sommes le lecteur qui lit cette nouvelle, puisque le secret ne sera pas divulgué, et dans la même situation que le personnage à l'intérieur de la nouvelle, puisque lui non plus ne connaîtra jamais la nature du secret. Donc il y aurait ce qu'on appelle classiquement une mise en abîme, où James nous mettrait en scène en mettant en scène un personnage. Or je crois que cette lecture est un petit peu, fausse un peu la donne, si j'ose dire. Parce que, d'une part, il y a une chose qu'on oublie trop souvent, c'est que le secret dans cette nouvelle, je rappelle brièvement le canevas de cette nouvelle, c'est donc ce romancier qui prétend qu'un secret traverse toute son œuvre, et un jeune critique littéraire va tenter de le percer et ne va jamais y parvenir. Et ce secret, pourtant, c'est ce qu'on oublie trop souvent, est percé par un jeune homme, qui enfin a réussi à percer le secret. Il en a d'ailleurs la confirmation auprès du romancier en question. Et ce jeune homme meurt malheureusement dans un accident, si bien qu'il ne peut pas transmettre le secret au jeune critique, qui est le personnage principal. Et le secret donc reste scellé jusqu'à la fin des temps. Mais voilà, on oublie que le secret est perçu. Et ce qui permet au jeune homme de percevoir le secret, celui qui mourra prématurément, c'est qu'il a un rapport vital avec la littérature. Dans la nouvelle, Henry James dit à un moment, pour lui, vie et littérature, c'est tout un. Donc, il a une appréhension vitale, viscérale de l'œuvre. Tandis que le jeune critique dont on suit la perception tout au long du texte, lui est quelqu'un dont l'attitude est extrêmement théorique. C'est quelqu'un qui veut absolument que le contenu, que le secret ait un contenu ou qu'il ait une forme. C'est exactement ce qu'on disait tout à l'heure, c'est-à-dire les deux formes du secret qui ne sont pas le véritable secret chez James. Donc, ou bien c'est un contenu, et alors il faudrait le trouver dans un récit particulier, ou bien ce serait un secret formel. Le personnage dit peut-être la récurrence de la lettre P, quelque chose de ce type. Et le romancier lui répond, dans l'extrait qu'on a entendu, « Non, c'est un organe de vie. » Et cet organe de vie, c'est précisément quelque chose qui fait corps avec toute l'œuvre, c'est-à-dire c'est dans la moindre des pages, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire le secret d'un écrivain, c'est presque son style ou sa manière de vivre qui transparaît dans l'écriture. Donc il y a, il faut éviter, je crois, de faire de cette nouvelle une forme de parabole dont la solution serait métalittéraire ou en dehors du récit. le récit a pour fonction non pas de dévoiler le secret ou de montrer qu'un secret ne peut pas être dévoilé, il a pour fonction de faire voir autre chose, c'est de faire voir l'impuissance de la critique littéraire à saisir quelque chose de vital dans une œuvre. C'est plus cela que James.
De la critique littéraire et même de la théorie en général.
Bien sûr, de
parce
la théorie littéraire.
Chez James, c'est ça qui est intéressant, c'est qu'il y a quand même une... Alors, on ne peut pas en faire une parabole, mais peut-être une mise en abîme de cette nouvelle-là dans ses romans, qui mettent en scène des personnages, souvent même un personnage qui a un point de vue à la fois surplombant sur le reste des autres personnages et qui en même temps n'est jamais en totale adéquation avec la réalité. C'est-à-dire qu'il est, il met en scène ce problème-là, qui est celui de la création littéraire, dans ses personnages, sans en proposer une théorie. C'est ça qui est assez fou, en réalité, cette cohérence entre la forme et le fond.
Oui, et il me semble aussi qu'il faut distinguer deux choses, parce que on présente souvent James comme étant l'auteur du point de vue,
oui,
en littérature, comme celui qui introduit de manière systématique la notion de point de vue en littérature, et on suppose que le point de vue consiste à regarder le monde par où le voit un personnage. Il me semble que c'est une présentation, comment dire, incomplète, voire même erronée de la méthode de James. Parce qu'il ne s'agit pas pour James de faire voir le monde par une conscience. Il s'agit au contraire de faire voir une conscience dans sa manière de regarder le monde. Donc le but pour lui, le monde ne l'intéresse pas, si j'ose dire. Ce qui l'intéresse, c'est la manière dont les consciences perçoivent le monde. Donc, il ne s'agit pas de montrer comment une conscience perçoit subjectivement le monde. Il s'agit plutôt, à travers la perception subjective qu'elle a du monde, de dresser le portrait, un portrait de conscience objectif, de faire voir objectivement une conscience à travers la perception qu'elle a du monde.
Deleuze ne dit pas autre chose. Dans son cours du 15 avril 1980, le sujet s'exprime par le point de vue et non l'inverse. Écoutez-le.
Ce qui me fait moi égal moi, c'est un point de vue. C'est un point de vue sur le monde. Quand en plein 19e siècle, un très grand romancier américain célèbre, à savoir Henry James, conçoit le roman et renouvelle les techniques du roman par un perspectivisme, par une mobilisation des points de vue chez James. Ce n'est pas les points de vue qui s'expliquent par les sujets, c'est l'inverse. C'est les sujets qui s'expliquent par les points de vue. Henry James a des techniques suffisantes pour qu'il n'y ait pas de sujet. Devient tel ou tel sujet celui qui est déterminé à être à tel point de vue. Or, pourquoi est-ce que c'est très politique? Voilà ce que nous dit Leibniz. C'est un beau texte, ça. Toute substance, vous comprenez, toute substance individuelle, hein, puisque la substance n'est pas individuelle pour Leibniz, hein. Toute substance est comme un monde entier, est comme un miroir de Dieu, ou bien de tout l'univers, qu'elle exprime chacune à sa façon. À peu près comme une même ville, une métaphore architecturale, à peu près comme une même ville, est diversement représentée selon les différentes situations de celui qui la regarde. Vous voyez, c'est tellement le point de vue qui fait le sujet que là, il faudrait commenter à la lettre les mots de Leibniz qui passent au singulier. Celui qui la regarde. Celui qui la regarde change véritablement de subjectivité suivant qu'il change de point de vue.
Sur la longue chemine, une gamine, c'est la fille du facteur, elle a mon cœur. On voit courir près d'elle son chien fidèle. Qu'il est bon, il fait des bons. Et tout ça, je le vois, la fenêtre d'en haut, la fenêtre du grenier où je vais étudier. Pour observer la vie et ses folies, c'est très intéressant de voir les passants. Je vois la salle des fêtes, la sous-préfète y donne un bal paré masqué. Oui, mais à la sortie, tombe la pluie, on voit courir les masques dans la bourrasque. Et tout ça, je le vois de la fenêtre d'en haut, de la fenêtre du grenier où je vais étudier. Le soleil qui s'attarde dans la mansarde allume ce vieux bandit des incendies.
Vous écoutez France Culture, les nouveaux chemins de la connaissance, il est 10h25, c'est le deuxième temps de notre série d'émissions consacrée à Deleuze et la littérature. Après Proust hier, c'est de Henry James qu'il est question aujourd'hui, en compagnie du philosophe David Lapoujade, qui est maître de conférences à Paris 1 Panthéon-Sorbonne et auteur de Deleuze, les mouvements aberrants, paru aux éditions de Minuit en 2014, ainsi que Fiction du pragmatisme, William et Henry James, toujours aux éditions de Minuit, et c'est Charles Trenet qui chante que depuis la fenêtre d'en haut, il observe le monde à la manière des personnages de Henry James et à la manière aussi des monades lamitiennes. On y revient dans un instant.
Nous ne changerons rien, le maire et la mairie, cérémonie, l'église pleine de monde, ma femme, ma blonde, et tout ça, je le vois de la fenêtre d'en haut, de la fenêtre du grenier où je vais étudier. La vie simple et tranquille, loin de la ville, nos enfants grandiront, nous vieillirons. Voilà tout ce que je désire, meilleur ou pire, mon Dieu, vous me le donnerez. Si vous voulez, je ne demande pas grand-chose, c'est pourquoi j'ose vous dire que tout sera bien, même si je n'ai rien. Et tout ça, vous le voyez, la fenêtre d'en haut, la fenêtre du ciel bleu, où tout le monde est heureux. L'on entend étrange la voix des anges. Quand on a mérité l'éternité, et tout ça, je le vois, la fenêtre d'en bas, moi.
On est vraiment au cœur ici du problème qui intéresse Deleuze chez James, avec cette référence à Leibniz, David Lapoujade. Alors ça fait beaucoup de liens, on va tout déplier ensemble, c'est le cas de le dire, puisque Deleuze, qui connaît très bien Leibniz, lui a consacré un ouvrage qui s'appelle « Le pli », dans lequel il propose une réflexion sur le perspectivisme baroque. Et dans le cours qu'on a entendu, il se sert de James justement pour illustrer l'importance du point de vue. Et la monade des monades, c'est Trenet qui, de la fenêtre d'en haut, observe tout le monde. Mais finalement, chaque monade est un point de vue sur le monde, nous dit Leibniz. Mais en quoi, et c'est cela qui permet de faire le lien avec James, et qui j'espère va éclairer ces rapprochements, en quoi est-ce que le point de vue n'est pas forcément un sujet? Vous faisiez la différence entre point de vue et conscience. Qu'est-ce que ça veut dire?
Il me semble, déjà, il faut insister sur ce rapprochement entre Leibniz et Henry James, parce que il est très troublant.
Ouais.
Deleuze rappelait que Leibniz définit la monade ou le point de vue comme une sorte de, comme un miroir du monde. Or, Henry James, dans la méthode romanesque qu'il met en place, décide d'appeler certains personnages des réflecteurs. Et il va même parfois jusqu'à qualifier certains d'entre eux de miroirs. Or, l'intérêt de ces personnages, ils ont véritablement une fonction perspectiviste, c'est-à-dire, si vous voulez, si on se met à la place de Henry James un instant, ça consisterait à dire, je vais choisir un personnage à l'intérieur d'une situation. Quel est celui qui fera percevoir le plus? Quel est le personnage dont le miroir réfléchit le plus à l'intérieur d'une situation donnée? Alors, et tout dépend de ce qu'il s'agit de réfléchir.
Oui, c'est ça.
Par exemple, si je reviens un instant sur l'image dans le tapis ou le motif dans le tapis selon les traductions, on pourrait se dire, quel mauvais choix de personnage, puisque le critique littéraire ne perçoit finalement pas le secret de l'écrivain. Donc, c'est étrange de définir la méthode de Henry James comme étant le choix du personnage qui fait percevoir le plus, puisque justement, là, ce qui se révèle, c'est l'impuissance de ce personnage. Seulement, c'est là où il faut se poser la question, est-ce que c'était ce que Henry James voulait faire voir? Et il me semble que non, justement. Sa méthode consiste toujours à faire voir le plus. Donc ce qu'il voulait faire voir, ce n'était pas ce qu'il voulait saisir ou faire voir, ce n'était pas le secret. Ce qu'il voulait faire voir, c'était précisément, comme je le disais tout à l'heure, l'impuissance de la théorie littéraire à percevoir ce qu'il y a de vivant dans une œuvre, aux yeux de James. L'idée, c'est vraiment ça. C'est réduire la conscience ou ce qu'on pourrait appeler la subjectivité à être un miroir du monde. Et tout réside dans le choix de ce miroir. Et en général, le meilleur miroir, c'est celui qui développe une relation de sympathie avec d'autres personnages.
Alors voilà, c'est là où le lien avec Leibniz est absolument passionnant, parce que pour Leibniz, chaque individu, pour le dire rapidement, est une monade, c'est-à-dire qui est un point de vue sur le monde, mais chaque monade a en commun un monde. C'est-à-dire qu'il y a une communication possible, disons un point commun, un lien entre ces monades, même si, nous dit Lanis, elles n'ont pas de fenêtres, donc elles ne communiquent pas vraiment entre elles, mais elles sont autant de points de vue sur un même monde. C'est-à-dire qu'ici, les perspectives, le perspectivisme n'est pas un relativisme. Est-ce qu'il en est de même chez James ? Il me semble que chez lui, les personnages semblent parfois, certes, isolés les uns des autres, mais aussi peut-être tributaires d'un monde qu'il ne communique pas du tout avec les autres personnages.
Je pense que la situation a changé effectivement de Leibniz à James, et une des choses qui témoigne de ce changement, c'est la question du temps. Rien n'empêche de le dire, que les personnages de Henry James vivent dans un monde commun. Mmh. Seulement, ce qui arrive sous la perspective d'un personnage n'arrive pas au même moment à l'intérieur du monde d'un autre personnage. Si bien qu'il y a une sorte de
désynchronisation.
Oui, de désynchronisation permanente qui fait que, si j'ose dire, les personnages ne sont pas à l'heure les uns des autres. Ils ne partagent pas un même temps. Alors, c'est une chose qui rend la situation extrêmement complexe de vivre dans un même monde, mais pas dans le même temps. Ça crée des déphasages, des décalages, des incompréhensions multiples, non seulement des personnages les uns avec les autres, mais d'un personnage à l'égard de lui-même, qui ne comprend que trop tard, certaines fois, quel pouvait être le sens de sa vie, ou ce qu'il aurait dû faire, ou l'occasion à côté de laquelle il est passé.
Comme si le temps de l'individu n'était pas le même que le temps du monde.
Exactement, ou comme s'il n'était pas synchrone avec le temps du monde, ou avec le temps de ce qui se passe autour de lui.
Et ça, c'est présent dans les romans de James en général, pas que d'ailleurs, c'est peut-être pas forcément dans le motif dans le tapis, mais aussi dans
d'autres. C'est présent dans presque tous les récits de James. Ça deviendra de plus en plus présent d'ailleurs. L'idée que dans le fond, on ne prend conscience de ce qui arrive que trop tard. C'est la seule manière de pouvoir prendre conscience de ce qui nous arrive. C'est lorsqu'on ne peut plus agir sur ce qui nous est arrivé.
La littérature d'imagination habite une maison qui n'a pas une seule fenêtre, mais des millions. Ou plutôt un nombre incalculable de fenêtres possibles. Chacune d'elles a été percée, ou pourra encore être percée, dans sa vaste façade, suivant le besoin de voir de chaque individu, et suivant la pression exercée par sa volonté. Ces ouvertures, de forme et de taille variables, donnent toutes sur la scène humaine, à tel point que nous aurions pu attendre d'elles une similitude d'observation plus grande que nous ne trouvons. Ce sont des fenêtres, mais que dans le meilleur des cas, de simples trous dans un mur sans vie, séparés, au perché parfois. Ce ne sont pas de portes à gonds, ouvrant directement sur la vie. Mais elles ont une caractéristique qui leur est propre. À chacune d'elles se tient une figure dotée d'une paire d'yeux, ou au moins d'une lorgnette, qui constitue toujours un instrument d'observation unique, garantissant à la personne qui s'en sert une impression différente de tout autre. Cette personne et ses voisines contemplent le même spectacle, mais l'une voit beaucoup de choses là où l'autre en voit peu. L'une voit noir là où l'autre voit blanc, l'une voit gros là où l'autre voit petit, l'une voit du vulgaire là où l'autre voit du raffiné, etc., etc. Il n'y a heureusement pas moyen de dire ce sur quoi, pour une paire d'yeux particulière, la fenêtre peut ne pas ouvrir. Et je dis heureusement, en raison précisément de l'incommensurabilité de ce domaine. Le champ qui s'étend, la scène humaine, constitue le choix du sujet. L'ouverture percée, qu'elle soit large ou avec un balcon ou en forme de fente et basse, constitue la forme littéraire. Mais séparément ou ensemble, ce ne sont rien, sans la présence d'un observateur à son poste, sans, en d'autres termes, la conscience de l'artiste. Dites-moi ce qu'est l'artiste, et je vous dirai ce dont il a été conscient. Ainsi, je vous expliquerai tout à la fois sa liberté illimitée et sa référence morale. « Avant d'entendre un exemple du roman de James qui illustre ce qu'il en dit de manière plus théorique, hein, c'est un extrait de préface qu'on entend ici, David Lapoujade, qu'on trouve dans un recueil « La création littéraire » par Henry James, justement. Le sous-titre est « La recherche du Proust américain ». Et c'est vrai qu'il y a peut-être quelque chose de proustien dans l'écriture de James. Restons un instant sur ce texte qui est là aussi très troublant de par sa proximité avec les analyses que nous avons proposées de Leibniz juste avant, par Deleuze notamment, cette importance du point de vue et du point de vue qui communique avec d'autres points de vue, mais pas toujours justement. On entend ici cette désynchronisation dont nous parlions juste avant, David Lapoujade.
Oui, il y a évidemment une désynchronisation, sans doute parce que il n'y a plus derrière un dieu pour favoriser une harmonie préétabli comme c'était le cas chez Leibniz, l'avantage aussi de cette désynchronisation ou de cette hétérogénéité entre les divers points de vue, c'est la possibilité d'une sorte de communication secrète et qui nous fait rejoindre ce qu'on disait sur le secret initialement. Je pense à une nouvelle, par exemple, de Henry James qui a pour titre L'élève. C'est un jeune homme qui doit devenir précepteur d'un jeune garçon extrêmement intelligent, remarquablement doué. Et la famille à laquelle il appartient apparaît au premier abord au jeune précepteur comme une famille extrêmement bohème et qui prometteuse, disons, de découverte, d'un enrichissement personnel. Surtout pour ce jeune précepteur qui vient de Yale, enfin qui a reçu une éducation assez austère. Et il apparaît assez vite que cette famille est une famille d'escrocs, de bourgeois déclassés. Et c'est le jeune garçon qui va petit à petit lui faire percevoir, qui va transformer le point de vue du précepteur et lui faire percevoir l'ignominie de cette famille. Si bien qu'en réalité, l'élève, ce n'est pas le jeune garçon. L'élève, c'est bien plutôt le précepteur qui est, pour ainsi dire, l'élève du jeune garçon. Parce que le jeune garçon va, par la sympathie qu'il attire, va déplacer la perspective du précepteur. Et ce qui intéresse particulièrement James, c'est la manière dont certains points de vue qui sont animés par des idées préétablies, par des idées a priori, dont le monde est délimité par des idées a priori, vont progressivement, à la faveur d'une sympathie ou d'une amitié ou d'un amour qu'ils éprouvent, voir leur monde se déplacer et basculer. Et on va les voir changer de perspective, où on va voir leur point de vue se déplacer pour accéder à une réalité qui leur échappait complètement. Par l'intermédiaire donc de ces signes secrets, un petit peu comme quelqu'un qui serait attiré par un bout de ficelle qui dépasse d'une pièce, qui dépasse sous une porte, qui ouvre la porte et qui suit ce bout de ficelle pour atterrir dans un nouveau monde.
Mais ça, littérairement, ça produit des effets prodigieux parce qu'il faut arriver par l'écriture à montrer ce déplacement d'un monde vers un autre, ce qui implique le fait de repenser le rôle du narrateur, savoir s'il se situe en dehors du point de vue du personnage ou à l'intérieur. On est, hein, je le rappelle, on est à la fin du 19e siècle, du 19e siècle, oui, donc avant ce qui est plus connu en littérature de ce qu'on appelle le stream of consciousness, j'ai pas le mot, le monologue intérieur,
le courant de conscience.
Voilà, disons, qu'on trouve chez Virginia Woolf notamment, qui hérite de James, et il y a chez James la mise au point littéraire de ce glissement-là d'un point de vue qui passe d'un aspect extérieur à un point de vue intérieur pour montrer comment le monde évolue de cette façon-là. C'est ça qui est dingue à la lecture de James.
Ben, c'est-à-dire, bon, il est, moi je dirais pas qu'il est le précurseur du courant de conscience tel que d'ailleurs son frère le décrit. Je dirais que c'est lui qui en est le plus exact théoricien, si j'ose dire. Parce que si on prend le courant de conscience tel qu'il a été développé ensuite, ou le monologue intérieur tel qu'on le rencontre chez Woolf, ou plus tard chez Joyce sous une autre forme encore, on a affaire, en tout cas dans le cas de Joyce ou de Dujardin, qui est son précurseur, on a affaire à un monologue en première personne. Hein, c'est-à-dire comme si la fiction, l'hypothèse est la suivante, j'entre dans une conscience et je la saisis au moment où elle se forme. C'est pas du tout ce que voulait décrire William James et c'est pas du tout ce qui se passe chez Henry James. Pour Henry James, il s'agit d'observer la manière dont une conscience observe. Donc, il faut toujours qu'il y ait, si vous voulez, il n'y a qu'un seul monde, qui est le monde dans lequel évolue la conscience, mais il faut toujours qu'il y ait deux consciences. Une conscience qui observe le monde, et puis une deuxième conscience qui observe cette conscience. D'où l'idée de ce narrateur dans l'extrait que vous lisiez tout à l'heure, la conscience de l'artiste qui va observer la conscience des personnages.
Alors, prenons un exemple, hein, écoutons un extrait du texte qui s'appelle « Dans la cage ». Qui la met en scène, toutes les problématiques que l'on vient de déplier au cours de notre discussion. Donc c'est l'histoire d'une jeune télégraphiste, dont on ne connaît pas le nom d'ailleurs, qui travaille dans le quartier de Mayfair, au cœur de Londres, et qui va découvrir les secrets de la haute société par la lecture des télégrammes. Alors écoutez la description de cette jeune femme dans cette cage, c'est-à-dire dans cette espèce de monade dans laquelle elle travaille, et dont le métier consiste donc à transmettre des télégrammes. Écoutez, c'est interprété par le comédien Vincent Schmitt.
Ce n'était en somme qu'un étrange élargissement de son expérience, cette double vie que, dans la cage, elle avait fini par mener. À mesure qu'y passaient les semaines, elle était de plus en plus entraînée dans le monde des brèves bouffées d'air et des aperçus fugitifs, et elle sentait ses intuitions gagner en vitesse et en portée. À mesure que croissait la foule de ses impressions, une perspective prodigieuse s'ouvrait, panorama rempli d'événements et de figures, envahi par un torrent de couleurs et accompagné par la merveilleuse musique du monde environnant. Cela revenait essentiellement pendant cette période à une vision des multiples divertissements de Londres. Et cette image, continuellement commentée par un personnage si rigoureusement réduit à son rôle de témoin extérieur, finissait par produire, pour l'essentiel, un endurcissement du cœur. La jeune fille avait les narines effleurées par le bouquet, mais sans jamais vraiment pouvoir cueillir la moindre pâquerette. La seule source vive d'impression persistant à travers la monotonie de ses corvées quotidiennes, c'était l'immense disparité, les différences et les contrastes perceptibles d'une classe à l'autre, pour chaque instant et dans le moindre mouvement. Il y avait des moments où tous les télégrammes du pays semblaient partir du réduit obscur où elle gagnait péniblement sa vie, et où, au milieu des piétinements, du bruissement des formulaires, des trajectoires incertaines des tampons, du tintement de la petite monnaie sur le comptoir, tous les gens qu'elle avait pris l'habitude de garder en mémoire et d'associer à d'autres, échafaudant sur eux ses théories et interprétations, défilaient devant elle en une ronde sans fin. Ce qui retournait le fer dans la plaie, c'était la manière dont les riches dissolus dilapidaient, en bavardages exorbitants, des sommes qui auraient permis à la malheureuse maisonnée de son enfance apeurée, à sa mère toujours sans le sou et à son père rongé par les soucis, à son frère dévoyé et à sa sœur misérable, de subsister toute une vie durant. Les premières semaines, elle était souvent restée pantoise devant la quantité d'argent que les gens étaient prêts à payer pour le genre de messages qu'ils envoyaient, les plus affectueuses pensées, les regrets infinis, les compliments et émerveillements, et tous ces gestes vains et vagues qui coûtaient autant qu'une paire de bottines neuves.
Là, on a un exemple du personnage quasiment chef d'orchestre, sorte de point focal du roman, puisque c'est par le biais de son travail, transmettre les télégrammes, qu'elle peut observer la disparité, la multiplicité infinie, disait James, des personnages qui s'agitent devant elle. Elle est comme dans la position elle-même du narrateur, en réalité, David Lepoujade.
Oui, c'est drôle que vous citiez cette nouvelle, parce que c'est une nouvelle qui a été commentée par Deleuze et Guattari dans Mille Plateaux, où ils essayent de distinguer trois lignes, disons, trois formes d'organisation des existences. Hein. L'une qui est celle de la conjugalité et de la vie au travail la plus simple et qui renvoie à ce qu'ils appellent une ligne de segmentarité dure avec des choix binaires assez élémentaires. Et puis une autre qui correspond à peu près au passage qu'on vient d'entendre, qui serait cette fois une ligne de segmentarité souple, comme ils le disent, où tout d'un coup, au lieu d'avoir affaire à des choix binaires épais et massifs, on se trouve devant des signes, comme ils le disent, molécularisés ou miniaturisés, c'est-à-dire on entre dans une zone où les perceptions se font micropsychiques, c'est-à-dire un monde de ruissellement de petites illuminations, comme c'est son cas, qui lui permettent d'échapper à la monotonie quotidienne qui correspond au premier type à la première forme d'existence. Et ce qui est frappant et qu'on rencontre assez peu chez James, mais dans deux ou trois nouvelles, c'est la capacité qu'ont certains personnages à franchir ce que Henry James appelle le gouffre social. Qui les sépare d'une autre classe.
Là, c'est très présent dans le texte qu'on vient d'entendre.
C'est très présent. Il y a une autre nouvelle aussi qui s'appelle La Maison Natale, et puis une autre encore qui s'appelle Mr. Brooksmith, où on voit des personnages de classe modeste pénétrés par l'intermédiaire de leur interprétation des signes à l'intérieur d'un monde d'individus extrêmement riches, extrêmement cultivés, et qui n'ont plus de secrets pour ceux de ces classes inférieures, telles que James les décrit. Donc c'est cette possibilité de déchiffrer tous les secrets et de jeter des passerelles entre des mondes qui ne sont supposés ne pas communiquer, qui pouvaient intéresser James dans cette nouvelle, et puis les transformations intérieures que subit cette jeune télégraphiste qui va parvenir au point où plus rien n'aura de secret pour elle. Elle parvient à une lumière crue, qui est le troisième état que décrit Deleuze, et Guattari dans Mille Plateaux, c'est-à-dire un tel état de transparence qu'il n'y a plus de secret, et qu'il n'est même plus nécessaire de chercher quel est le secret de cet aristocrate qui vient régulièrement au guichet déposer des messages codés. C'est-à-dire, on sait qu'il y a des secrets, mais il n'importe plus d'essayer de les dévoiler. Parce que on est au-delà du secret, si j'ose dire.
Et c'est quoi ? C'est une forme de sagesse ?
C'est une forme de... Peut-être.
Ou de renoncement, au contraire ?
Non, c'est qu'on atteint à un niveau de perception où on n'a plus besoin d'essayer de dévoiler des contenus.
C'est le troisième genre de connaissance.
C'est un peu ça, oui, exactement. Ça serait beaucoup plus proche du troisième genre de connaissance, connaissant Deleuze, que d'une forme de sagesse... au sens antique du terme, en tout cas. C'est cette caractéristique qui est frappante, cette possibilité à se déplacer dans un autre monde ou à faire basculer des mondes à l'intérieur d'une même conscience.
Secrets in the Moonlight, non pas de Henry James, ni de William James, son frère philosophe, mais de Harry James. Figurez-vous, David Lapoujade, peut-être que vous pouvez lui consacrer un ouvrage à lui aussi. Je ne sais pas si vous le connaissez.
Non, je ne le connaissais pas.
Eh bien, il chante sur le secret lui aussi. Merci à vous d'être venu nous parler de Henry James aujourd'hui et de Deleuze. Je renvoie les auditeurs à vos ouvrages. Fiction du pragmatisme, William and Henry James. Donc, vous avez consacré un livre aux deux frères, philosophes et romanciers, aux éditions de Minuit. Et puis Deleuze, Les mouvements aberrants. Toujours aux éditions de Minuit, ça s'était publié en 2014. Sur France Culture, les nouveaux chemins de la connaissance, il est l'heure de retrouver Géraldine Mosna-Savoie pour ses 2 minutes papillon. Bonjour Géraldine.
Bonjour Adèle, bonjour à tous.
Comme tous les jours, vous venez nous donner envie de lire un livre de philosophie qui vient de paraître. Et aujourd'hui, c'est un joli livre que vous avez devant vous, une belle photo en tout cas.
Oui, c'est une très belle photo. C'est un essai de Raphaël Andrew qui s'appelle « La raison des corps » et qui est paru aux éditions Vrin.
Votre fils Simon a eu un grave accident de la route.
Mais je comprends rien.
Quand vous le voyez, tout vous semble normal.
C'est uniquement grâce aux machines que vous avez vues dans sa chambre. Mais si on arrête ces machines, son cœur s'arrêtera aussi. C'est délicat, mais il faut que j'aborde quelque chose avec vous. Cette situation nous permet d'envisager un don d'organes.
Dans le roman de Maëlys de Kerangal, Réparer les vivants, et adapté récemment au cinéma par Katel Kiliveré, on suit 24 heures ou presque 24 heures de la vie d'un cœur. Passé de Simon, 19 ans, en état de mort cérébrale après un accident de voiture, à Claire, 51 ans, atteinte d'une nécrose au cœur et en attente d'une greffe. C'est donc à la fois la vie d'un cœur que l'on suit, mais aussi ce cœur qui est la vie même, son instrument, son organe. Entre le cœur et la vie, c'est comme s'il y avait ainsi une sorte d'identité, et Descartes, dans son discours de la méthode, commencera d'ailleurs par le mouvement des artères, le premier et le plus général selon lui, pour penser chacune des parties du corps. Mais entre faire du cœur l'organe de la vie ou la première des parties du corps, il y a bien une nuance et même une grande différence qui a marqué la philosophie et l'histoire des sciences médicales. Entre faire du cœur le tout vitaliste et le décomposer façon mécanisme en une des parties, même la plus importante de notre anatomie, quelle est donc la bonne manière de donner raison au corps? Eh bien, la raison des corps, c'est justement le titre de l'essai de Raphaël Andreau qui part du legs du mécanisme cartésien pour aboutir aux lectures du vitaliste Canguilhem. Mais de l'un à l'autre, si la différence est grande, l'enjeu est en fait le même. Comprendre comment fonctionne le corps. Hormis Descartes et Canguilhem, il y a ainsi Sténon qui, en 1667, découvre la fabrique des muscles et démonte pièce à pièce tous les ressorts du corps humain en les déconnectant d'une finalité, à l'inverse de Leibniz et de ces machines de la nature qui participent au tout harmonieux, avec donc toujours ces mêmes questions. À quoi tient le souffle de la vie? Est-il visible à l'œil nu, à la dissection, dans les organes, ou échappe-t-il toujours à nos prises?
Merci Géraldine, ça donne envie de découvrir ces nouvelles collections, j'imagine, Chèvre. Un problème de la raison.
Alors, il ne me semble pas que ce soit une...
D'accord, en tout cas, nouvelle couverture.
Nouvelle couverture, nouvelle mise en...
Qui donne très
nouvelle édition, donc c'est un essai de Raphaël Andreau, La raison des corps, et donc aux éditions Frein.
Merci Géraldine, merci David Lapoujade d'être resté avec nous en studio, et merci à tous. On se retrouve demain pour la suite de cette semaine sur Deleuze et la littérature. Après Proust hier, Henry James aujourd'hui. Demain, nous parlerons de Kafka en compagnie de Guillaume Sibertin-Blanc. Un grand merci à Antoine Ravon pour la préparation de cette émission, ainsi qu'au reste de l'équipe des Nouveaux Chemins, Marianne Chassor, Ariane Mintz, Pierre Brossard, Géraldine Mossa-Savoie bien sûr, Nicolas Berger à la réalisation cette semaine, Clément Daté à la prise de son aujourd'hui.